Chapitre 13. Le soir, Antoine alla visiter ses malheureux. Les yeux baignés de larmes, il essayait de les consoler. Mais ceux-ci, au contraire, voyant l'inquiétude de leur général et comprenant la responsabilité qui pesait sur lui, surmontaient leurs souffrances, lui montraient un visage satisfait et, lui baisant les mains, le suppliaient de se retirer, de prendre soin de lui-même et de ne point se fatiguer ainsi pour eux. De son salut, de sa vigilance dépendait, lui disait-il, le salut de l'armée. Tant qu'ils se porteraient bien et pourraient demeurer actifs, ils croiraient leur vie sauve. Ils l'appelaient leur chef suprême, leur impérator, leur père. Ce qu'il y avait de remarquable, c'est que ce respect pour leur chef, ce dévouement, cette obéissance, cette respectueuse affection, étaient communes à tous, aux officiers comme aux soldats, aux nobles comme aux gens obscurs, tous mettant avant leur vie l'estime et les bonnes grâces d'Antoine. Au moment où Flavius Gallus fit la fatale échauffourée, les Parthes, fatigués de cette poursuite où, grâce aux bonnes dispositions d'Antoine, ils perdaient autant d'hommes que les Romains, allaient se retirer. Cette victoire inattendue leur rendit tout leur courage et leur inspira un tel mépris pour les Romains qu'ils passèrent la nuit autour du camp d'Antoine, persuadés que le lendemain, ils trouveraient les tentes désertes et pourraient tout piller à loisir. Aussi, à la pointe du jour, apparurent-ils, accourant comme des vautours à une curée, de tous les points de l'horizon. Autant que pouvait les compter l'œil inquiet d'Antoine, il devait être 40 000 au moins. Le roi, certain que désormais les Romains ne pouvaient lui échapper, avait envoyé jusqu'à sa garde. Quant à lui, il ne parut jamais. Antoine demanda une robe noire. Il voulait haranguer ses soldats sous ce costume de deuil, comptant leur inspirer un plus grand intérêt. Mais ses amis l'en empêchèrent. Ils craignaient le découragement. Antoine parut donc, mais avec sa cotte d'armes de général. Alors il fit un discours dans lequel il loua fort ceux qui avaient fait face à l'ennemi, déclara qu'il aimerait mieux être au nombre des blessés et même des morts que de devoir la vie à la fuite, comme la devaient beaucoup de ceux qui étaient autour de lui. Mais alors les soldats l'interrompirent par leurs cris. Ceux qui avaient vaincu disaient « Nous voilà, nous vaincrons encore, et confiance en nous !» Ceux qui avaient fui disaient « Nous reconnaissons notre lâcheté, punis-nous, décime-nous » Et tous ajoutaient « Au nom des dieux, sois calme, bannis toute tristesse et conserve bon espoir. Avec toi et près de toi, nous mourrons tous sans une plainte, depuis le premier jusqu'au dernier. » Alors Antoine, levant les mains et les yeux au ciel, « Ô Dieu, dit-il, si mes prospérités passées doivent être contrebalancées par quelque malheur, faites-le tomber sur moi seul et donnez à tous ces braves gens qui m'entourent salut et victoire. » Les Romains demeurèrent au même endroit. Antoine avait pensé que l'armée avait besoin d'un jour pour se reposer. D'ailleurs, il fallait mettre les blessés en état de suivre la retraite. Les plus forts marcheraient avec les autres, les plus faibles seraient portés par leurs camarades sur des brancards formés avec les piques et les épées. Le surlendemain, Antoine se mit en marche. Les Parthes, pleins de confiance et croyant avoir affaire à des hommes découragés, se présentèrent aussitôt pour charger. À leur avis, il ne s'agissait plus de combat, mais de boucherie et de pillage. Leur étonnement fut grand lorsqu'ils se virent assaillis par une grêle de traits et qu'ils trouvèrent les Romains aussi courageux et aussi âpres au combat que l'eussent été des troupes fraîches. Ce furent eux alors qui, découragés, débandèrent leurs arcs et cessèrent de poursuivre Antoine. Par malheur, vers le milieu de la journée, ils eurent à descendre quelques coteaux dont la pente était rapide. Dans cette descente, il leur fallut, de crainte de désordre, ralentir leur marche. Les Parthes s'aperçurent bientôt de cette difficulté de la position et revinrent à la charge. Ces terribles flèches de 4 pieds de long, qui faisaient tant de ravages parmi les Romains et qui perçaient de part en part les cavaliers et les fantassins armés à la légère, volèrent de nouveau, mais les Romains employèrent une manœuvre encore inconnue des Parthes. Les légionnaires firent face à l'ennemi, enfermant dans leur rang l'infanterie légère. Le premier rang mit un genou en terre et s'abrita derrière ses boucliers. Le second fit de même, élevant ses boucliers au-dessus de ceux du premier rang. Le troisième resta debout, s'abritant toujours derrière les boucliers. Et par cette manœuvre, que les Grecs appelaient le synapisme et les Romains la tortue, Il présentait une surface aussi impénétrable que l'eût été le toit d'une maison. Les flèches des partes, si vigoureusement lancées qu'elles fussent, glissaient sur cette surface d'airain et s'écartaient, impuissantes. Cette manœuvre eut en outre un avantage auquel ne s'attendaient pas les Romains. Les partes la prirent pour une marque de lassitude et d'épuisement, ils déposèrent à terre leurs arcs et leurs flèches devenues inutiles, et, armés de piques, ils s'approchèrent pour charger. C'était ce que demandaient les Romains, corps à corps les plus terribles de tous les soldats. Ils les laissèrent en effet approcher à longueur d'une pique, mais se levant tout à coup en poussant de grands cris et attaquant les partes avec leurs épieux, ils abattirent ceux qui se trouvèrent le plus près d'eux et mirent les autres en fuite. Mais cette manœuvre, qu'ils furent obligés de répéter plusieurs fois les jours suivants, avait un grand inconvénient. Elle ralentissait la marche d'Antoine au point de lui faire faire des journées de 3 ou 4 lieues. Puis la famine commençait à montrer son visage livide au milieu de tous ces visages pâlissants. On ne pouvait se procurer du blé sans combat et chaque fourrage coûtait cher. D'ailleurs, le blé recueilli, les moulins manquaient pour le moudre. On avait été obligé de les abandonner. Les bêtes de somme, la plupart du moins, avaient péri. Les autres portaient les malades et les blessés, ce qui était un grand soulagement pour les hommes. Les 2 livres de froment se vendaient jusqu'à 45 francs de notre monnaie. Quant au pain d'orge, on les mettait dans un plateau d'une balance, l'argent dans l'autre, et l'on avait 1 livre de pain pour 1 livre d'argent, et encore bientôt n'en eût-on plus à quelque prix que ce fût. Il fallut recourir aux racines que l'on trouvait sur la route. Mais dans ces pays lointains, racines et légumes étaient inconnus aux Romains. On mangea au hasard ce que l'on trouva. Une herbe les rendit fous et les empoisonna. La folie était étrange et la mort cruelle. Le soldat qui avait mangé de cette herbe n'avait plus qu'une idée et n'avait plus qu'une occupation, c'était de retourner toutes les pierres qu'il trouvait sur son chemin, mettant tous ses soins et toutes ses forces à ce travail, comme il l'eût fait à une occupation importante. Il y eut un moment où l'on ne voyait plus que soldats courbés vers le sol, arrachant des pierres et les changeant de place. Enfin, les vomissements les prenaient. Ils rendaient une grande quantité de bile et mouraient tout à coup, surtout lorsque le vin, qui paraissait le contrepoison de cette herbe, eut manqué. « Oh, 10 000, 10 000 !» s'écriait Antoine à cette vue, faisant allusion à cette belle retraite de Xénophon, qui, après la défaite de Cyrus le Jeune à Cunaxa, était revenu de Babylone en Grèce, c'est-à-dire avait parcouru, presque sans perte et luttant contre d'innombrables ennemis, un trajet double de celui que lui, Antoine, avait à faire. Un nouveau danger menaçait les Romains, danger auquel Crassus était laissé prendre. Les Parthes, voyant qu'ils ne pouvaient rompre l'ordonnance des Romains, mais qu'au contraire ils avaient été eux-mêmes plusieurs fois battus et mis en déroute, eurent recours à la ruse. Ils se mêlèrent, les flèches au carquois et les arcs débandés, aux soldats romains qui s'écartaient de l'armée pour aller en fourrage, leur annonçant qu'ils suspendaient là leur poursuite. Ils accompagnèrent ces paroles d'adieux et de témoignages d'admiration si simples et en apparence si sincères qu'Antoine lui-même y fut pris et annonça que, débarrassé des Parthes, l'armée allait abandonner les montagnes et prendre le chemin de la plaine. On eût dit qu'à un certain moment, la même folie leur prenait à tous. Par bonheur, au moment où, les Parthes disparus, ils se préparaient à exécuter ce plan, on vit arriver un cavalier Parthe accompagné de quelques hommes seulement. Mais celui-ci était un ami et non un ennemi. Il se nommait Mithridate. C'était le cousin d'un certain Monécès qui, après que Phraate eut tué son père au Rhodes, s'était retiré près d'Antoine. Antoine, toujours grand et généreux, l'avait reçu comme s'il eût été Thémistocle, et pour rivaliser de magnificence avec le roi de Perse, il lui avait donné 3 villes pour son entretien, Laris, Arétuse et Hierapolis, oubliant que Monécès était un barbare, et qu'à ce barbare il donnait des villes grecques, que leur souvenir eût dû lui rendre sacré. Mais cette fois, le sacrilège lui servit. Ce Parthe qui venait à Antoine, ce cousin de Monécès, qui demandait à être mis en rapport avec quelqu'un qui entendit la langue parthe ou syrienne, venait sauver l'armée romaine. On lui amena un des amis d'Antoine, nommé Alexandre d'Antioche. Le Parthe se fit reconnaître à lui. « Je suis envoyé par Monécès, dit-il, Il veut rendre à Antoine plus qu'il n'a reçu de lui, car pour l'hospitalité et la richesse que lui a donnée Antoine, je lui apporte, moi, la vie et le salut de l'armée. » Alors, montrant à Alexandre une silhouette bleuâtre que l'on distinguait à peine dans l'éloignement, « Voyez-vous cette chaîne de montagne ? » dit-il. Alexandre fit signe qu'il la voyait. « Eh bien, Mithridate, c'est au pied de ces montagnes que les Parthes vous attendent. Ils croient, d'après ce que vous avez dit, que vous allez prendre la route de la plaine et vous regardent déjà comme perdu. Vous l'êtes, en effet, et aussi perdu que l'ont été Crassus et son armée, si vous avez le malheur de vous engager dans le bas pays. En suivant la chaîne de collines où vous êtes engagé, vous trouvez la faim et la soif, mais au bout de la route, le salut. En prenant le chemin de la plaine, c'est la mort certaine, infaillible, et non seulement cruelle, mais honteuse. » Alexandre rapporta ce discours à Antoine. Celui-ci fit venir le marde qui lui servait de guide et que depuis longtemps on avait délié. Il fut en tout point du même avis que le Parthe. Puis il ajouta « Je sais par expérience, l'ayant suivi, que le chemin de la plaine, outre ce danger qui vous livre au Parthe, serait, même en l'absence de tout ennemi, le plus dangereux de tous les chemins, à cause du péril que l'on court de se perdre sur un terrain immense et au milieu duquel aucun chemin n'est tracé. L'autre route est plus rude, mais au moins elle est certaine, et moins un jour où nous manquerons d'eau, nous la trouverons telle que jusqu'ici nous l'avons trouvée. » Sur ce double avis, Antoine changea de résolution. Le Parthe, la mission accomplie, reprit le chemin par lequel il était venu, et le Mède se chargea de nouveau de la conduite de l'armée. Et comme le désert sans eau que l'on avait à traverser était proche, Antoine ordonna d'en puiser et d'en emporter le plus possible avec soi pour que la journée du lendemain pût être heureusement franchie. Les soldats obéirent, faisant de leur mieux. Ceux qui avaient des outres remplirent leurs outres. Ceux qui n'avaient pas d'outres remplirent leurs casques, et l'on se mit en marche vers 10 heures du soir. Les Parthes, avertis du départ des Romains, se mirent en marche à leur tour, continuant de les poursuivre et de les harceler. Si bien qu'au moment où le jour parut, l'arrière-garde des Romains était jointe par l'avant-garde des Parthes. On avait fait plus de 12 lieues pendant la nuit. Aussi la vue de l'ennemi jeta-t-elle cette fois les Romains dans le découragement. L'eau était bue, on avait soif, et la nécessité où l'on était de combattre à chaque pas augmentait encore cette soif. Sur ces entrefaites, l'avant-garde romaine arriva au bord d'une rivière. Mais, entre elle et l'eau, elle trouva Antoine et le marde, qui, les bras étendus, suppliaient les soldats de ne pas boire de cette eau. Par son guide, Antoine savait que cette eau était malfaisante. Mais, quoique tous deux pussent dire aux soldats, ils ne voulurent rien entendre et, enragés de soif, se précipitèrent vers la rivière. L'effet ne fut pas long à se produire. Tous ceux qui avaient bu de cette eau salée, saumâtre, affreuse au goût, furent pris de vives douleurs. Par bonheur, elle n'était point mortelle. Antoine passa de rang en rang, encourageant ses hommes, les invitant à l'écouter comme un père chaque fois qu'il donnerait un avis, les suppliant de souffrir encore avec courage pendant quelques heures, et leur annonçait, pour leur rendre l'espoir, qu'à une demi-journée de l'endroit où ils étaient arrivés, ils trouveraient une eau aussi saine et aussi bonne à boire que celle qu'ils venaient de rencontrer était fatale et impure. Puisqu'au-delà de ce cours d'eau, ils entreraient dans un pays aux chemins escarpés et impraticables à la cavalerie. On touchait donc au salut, on n'avait plus qu'à étendre la main, il était là. Encore un jour de patience et de courage, c'était tout ce que demandait Antoine. Et Antoine fit sonner la retraite et ordonna de dresser les tentes pour que les soldats pussent trouver un peu d'ombre et respirer un peu de fraîcheur. À peine les tentes étaient-elles dressées et les Parthes hors de vue, car, chose étrange, de même que les modernes Bédouins, ils ne combattaient point la nuit, Mithridate, ce même Parthe qui était déjà venu, revint de nouveau. Il demanda à Alexandre. Alexandre accourut. Le Parthe revenait pour exhorter Antoine à ne prendre et à ne donner aux soldats qu'une heure de repos, mais à gagner en toute diligence la rivière, distante seulement de 10 ou 12 lieues. Il savait, disait-il, que la poursuite de l'ennemi s'arrêterait au bord de cette rivière. Alexandre alla porter en toute hâte cette bonne nouvelle à Antoine. Antoine prit alors tout ce qu'il put trouver à portée de main de coupes d'or et de flacons d'or, lui disant de les porter à Mithridate en récompense de son avis. Mithridate en prit tout ce qu'il pouvait cacher sous sa robe et se retira en chargeant Alexandre de porter de son côté ses remerciements à Antoine. Antoine ne perdit point une minute. Quoi qu'il fît jour encore, il ordonna de lever le camp et de se mettre en marche, manœuvre qui s'exécuta sans que les Parthes s'y opposassent le moins du monde. Mais, à défaut de l'ennemi, les Romains se donnèrent à eux la nuit la plus fâcheuse qu'ils eussent encore éprouvée. Les soldats, quelques-uns du moins, se mirent à égorger ceux qui portaient l'or et l'argent et à piller le trésor de l'armée transporté sur des bêtes de somme. D'autres, voyant cela, se jetèrent sur les équipages mêmes de leur général, pillant sa vaisselle d'or et d'argent qui était magnifique. Le désordre qui se mit à l'arrière-garde et qu'occasionna cette action fit croire à une attaque nocturne. Le trouble et l'effroi gagnèrent toute l'armée. Antoine, voyant cette panique gagner de proche en proche, crut que tout était perdu. Il appela Ramsus, qui était son affranchi, et lui fit jurer que dès qu'il le lui ordonnerait, il lui passerait son épée au travers du corps et lui couperait la tête, afin que, comme celle de Crassus, elle ne tombât pas aux mains des ennemis. Ramsus le lui promit. Tout autour d'Antoine, ses amis fondaient en larmes. Seul, le marde restait calme. Il essayait de rassurer tout le monde, il disait que la rivière était proche et qu'il ne pouvait en être autrement, la brise nocturne lui apportant la fraîcheur et la saveur de l'eau. Il répondait qu'au point du jour, on se trouverait sur ses rives. En ce moment, pour achever d'apporter le calme dans les esprits, on vint apprendre à Antoine que le tumulte n'avait point été causé par une attaque des Parthes, mais par l'indiscipline de ses propres soldats. Antoine, quelque désir qu'il eut d'arriver au bord de la rivière, donna aussitôt l'ordre de camper. Il pensa que, si le jour venait, avant que l'ordre fût parfaitement rétabli parmi ses hommes, les Parthes auraient trop bon marché d'eux. L'armée campa et l'ordre se rétablit. Au point du jour, les Parthes attaquèrent l'arrière-garde. Antoine aussitôt donna aux troupes légères le signal du combat. Les légionnaires, employant la manœuvre déjà adoptée, se couvrirent de leurs boucliers et soutinrent ainsi sans danger l'attaque de l'ennemi. Pendant ce temps, ceux qui formaient l'arrière-garde annoncèrent avec de grands cris qu'ils voyaient la rivière, ce qui donna une recrudescence de courage à toute l'armée, puisqu'au dire du marde, toute l'armée savait qu'au-delà de cette rivière, le danger était passé. Antoine accourut au galop sur le bord, disposa sa cavalerie légère de manière à être prête à charger et fit d'abord passer les malades. Mais les Parthes n'eurent pas plutôt aperçu eux-mêmes la rivière que, donnant raison aux mardes, ils débandèrent leurs arcs et crièrent aux Romains que non seulement ils pouvaient boire tout à leur aise, mais encore passer tranquillement la rivière. Les Romains doutaient d'abord de cette bonne volonté entremêlée de ces éloges perfides dont ils avaient déjà été à même d'apprécier la loyauté. Mais pour cette fois, les Parthes ne mentaient point et toute l'armée passa sans qu'il lui fût fait le moindre obstacle. Arrivés de l'autre côté, sans avoir été ni suivis ni inquiétés, les Romains reprirent haleine et, après une halte de 2 heures, continuèrent leur marche, mais tout en se gardant avec le plus grand soin. Cette précaution était inutile, les Parthes ne reparurent plus. Le 6e jour, l'armée arriva au bord de l'Arax, fleuve qui séparait la Médie de l'Arménie. Là, les craintes revinrent. D'abord, le fleuve était profond et rapide, et par conséquent, le passage en était difficile. Puis, un bruit courait dans l'armée. C'est que l'ennemi était embusqué aux environs pour charger lorsque l'armée se serait engagée dans le fleuve. L'ordre fut néanmoins donné de traverser l'Arax. Aucun parthe ne parut. Les Romains n'éprouvèrent donc d'autres difficultés que celles que leur opposa le fleuve lui-même. Une fois en Arménie, on était non seulement en pays riche et fertile, mais encore en pays allié. Là, Antoine passa la revue de son armée. Il trouva qu'il avait perdu 20 000 fantassins et 4 000 cavaliers, dont moitié avaient été tués par les Parthes, moitié était mort de maladie. On avait mis 27 jours pour venir de Phraata à l'Arax, et pendant ces 27 jours, on avait battu 18 fois les Parthes. Seulement, ces victoires avaient été sans résultat par l'impossibilité où l'on s'était trouvé de poursuivre l'ennemi.